Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter en direct avec la directrice de Marianne, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Une émission évidemment très largement consacrée à la crise du coronavirus et après une semaine où tout s'est accéléré. L'OMS parle depuis mercredi dernier de pandémie. Partout dans le monde, des mesures exceptionnelles pour faire face à cette crise sanitaire la plus grave depuis un siècle. Jeudi, le président de la République appelait à la mobilisation générale et derrière les enjeux de santé publique, des questions que beaucoup se posent. A-t-on raison d'avoir peur? Et si nous vivions une situation inédite qu'il bouleverse jusqu'à l'idée même de solidarité, quand il ne s'agit plus de tendre la main aux malades, mais au contraire de les éviter et de se laver les mains plusieurs fois par jour? On va en débattre tout à l'heure avec notre invitée. Elle est philosophe, psychanalyste, l'auteur d'un livre majeur, Le soin est un humanisme, le soin qui serait la véritable clé de la démocratie. Cynthia Fleury sera l'invitée du grand face-à-face ce samedi. Rendez-vous avec elle dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Natacha et Gilles, vous connaissez mieux que personne la règle et le code électoral, l'interdiction de parler des municipales avant d'aller voter demain. Mais nous sommes libres de parler d'autres campagnes électorales, loin de la France, mais qui concernent pourtant le monde entier, puisque tout le monde aimerait voter aux États-Unis, et puisqu'il est question des primaires démocrates et de savoir qui affrontera Donald Trump. Voici ce qui s'est passé.
Je veux remercier Bernie Sanders et ses supporters pour leur énergie sans faille, leur passion. Nous avons un but commun. Ensemble, nous battrons Donald Trump. On le battra ensemble.
C'était mardi, Joe Biden distançait Bernie Sanders dans la course aux primaires démocrates et dans un discours plutôt sobre, l'ancien vice-président de Barack Obama a tendu la main à son adversaire pour, je le cite, « battre ensemble Donald Trump à la présidentielle ». Gilles, pourquoi avez-vous voulu revenir sur cette séquence de la vie du Parti démocrate américain ?
C'est vrai que c'est la troisième fois qu'on y revient dans cette émission. Je ne sais pas si c'est la dernière, mais c'est pas impossible parce que les choses se sont accélérées. La semaine dernière, après le Super Tuesday, on avait dit ce n'est pas fini parce qu'il reste encore 62% des délégués à attribuer, mais il y a une dynamique très forte en faveur de Joe Biden. Aujourd'hui, après le mini Tuesday, on ne sait pas quand ça va se terminer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quand Bernie Sanders va maintenir sa candidature, mais on sait à peu près comment ça va se terminer, c'est-à-dire que maintenant l'hypothèse la plus vraisemblable est que Joe Biden va être le candidat démocrate face à Donald Trump. Pourquoi ? Parce que dans ce mini Tuesday, Joe Biden a résisté là où il devait être battu, notamment dans l'État de Washington. Il a écrabouillé Bernie Sanders là où il devait simplement l'emporter, et surtout, et c'était ça l'événement, il a gagné dans l'état clé qui était le Michigan, et il a gagné nettement, qui est un état dans lequel Bernie Sanders, il y a 4 ans, avait battu à la surprise générale Hillary Clinton. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, Joe Biden ne l'a pas seulement emporté dans l'électorat afro-américain, mais c'est chez les cols bleus, chez les ouvriers qu'il l'a emporté. Et donc là, maintenant, il y a un mouvement qui est un mouvement qui est, je crois, irréversible.
Sanders ou Biden, que vote le reste du monde? C'était la question que posait Pierre Asquier à l'antenne d'Inter cette semaine, Natacha.
C'est toute la question, mais évidemment, dans la mesure où le reste du monde ne vote pas, on peut continuer à prendre nos rêves pour des réalités, ça ne changera rien. Non, la première remarque, c'est est-ce que la dynamique de Bernie Sanders vers une rupture, vers une politique beaucoup plus socialiste, va demeurer malgré sa défaite? C'est-à-dire, est-ce qu'il aura apporté quelque chose au débat? Ça, c'est la première question, et elle est importante parce que tous les sondages montrent que une part importante de la jeunesse américaine souhaite un véritable changement, une véritable rupture. Or, même si, on en a déjà parlé la semaine dernière, Joe Biden ne se situe pas exactement dans la continuité de Barack Obama, grosso modo, la rupture n'est quand même pas là. Et simplement, il a gagné aussi par cette capacité à rassurer, il est en train de gagner, par cette capacité à rassurer, par cette capacité à nous vendre de la continuité, de la stabilité. Mais est-ce que c'est réellement ce dont a besoin l'ensemble du monde aujourd'hui?
Bonne question.
Le business as usual, est-ce que ça vaut encore dans les conditions que nous voyons aujourd'hui? Il est intelligent, Joe Biden, il se situe, on voit très bien dans sa rhétorique, il était d'ores et déjà dans un débat avec Donald Trump et pas avec Bernie Sanders. C'est peut-être intelligent pour gagner. Est-ce que c'est ce qu'il faut ensuite pour mener une politique qui assure de prendre en compte les conditions actuelles?
D'autant que le coronavirus s'est invité dans la campagne américaine. Vendredi, Donald Trump a décrété hier l'état d'urgence pour faire face à la pandémie. Le dispositif devrait permettre à l'État fédéral de débloquer jusqu'à 50 milliards de dollars pour lutter contre l'épidémie, alors qu'il l'a minimisé jusqu'à présent. Et Joe Biden a commencé à attaquer Donald Trump pour son incompétence en disant que l'échec de l'administration américaine vis-à-vis des tests était colossal, échec dans la préparation, la direction et la mise en œuvre de la lutte contre le coronavirus, même aux États-Unis. C'est la question qui se pose et qui est aujourd'hui au cœur des débats, Gilles.
Oui, c'est la question qui se pose, et ce qui me permet de rebondir sur ce que disait Natacha à l'instant. Elle se demandait si on avait besoin de continuité par rapport à la politique que conduisait Obama, tout en soulignant que Joe Biden était un peu décalé, un peu plus à gauche, parce que le barycentre s'est déplacé. Je ne sais pas si on a besoin de continuité par rapport à Barack Obama. Ce dont je suis certain, c'est qu'on a besoin d'une rupture par rapport à Donald Trump. Et la raison pour laquelle aujourd'hui Joe Biden est en passe de l'emporter, c'est que la logique qui est en train de présider à cette primaire est une logique électorale et pas une logique identitaire. La question que se posent les électeurs est moins de savoir quel est le candidat dont je me sens le plus proche, si tant est que ce soit Sanders, oui, mais avec quel candidat on a le plus de chances de gagner. Et on verra après s'ils ont eu raison ou pas, mais parce que Joe Biden apparaît comme celui qui a le plus de chances de battre Donald Trump, c'est ça qui explique la dynamique qui est en sa faveur aujourd'hui.
Et Natacha, Joe Biden a emporté la question du coronavirus pour attaquer Donald Trump en l'accusant de recourir à la xénophobie, puisque Donald Trump avait appelé le Covid-19 un virus étranger et qu'il veut lui rejeter la responsabilité sur lui, sur l'administration Trump.
Mais ça, Joe Biden se saisit là d'une arme qui est évidente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être grand clair pour comprendre que Donald Trump, comme pour le reste d'ailleurs de sa politique, y est allé avec ses gros sabots, ses caricatures et finalement une inefficacité assez frappante. Donc en effet, c'est de bonne guerre. Simplement, quand Gilles dit ce n'est pas la logique identitaire qui prévaut, j'aurais pas dit logique identitaire, j'aurais dit idéologique. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir si on se sent proche par identité, mais par pensée politique. Or, le problème est que, en effet, le réflexe du vote utile, c'est la négation de la pensée politique. Et c'est ce qui empêche un système d'évoluer en fonction des nécessités, en fonction de ce que nous disent les événements. C'est-à-dire que si, en effet, on part du principe que Bernie Sanders ne peut pas battre Trump et que donc il faut Joe Biden, on vote pour un système qui n'est peut-être pas le bon, uniquement parce que ça permet d'éviter le pire qui est Trump. Ce faisant, et c'est ce qui prévaut depuis des décennies dans les démocraties, ce faisant, on perpétue une politique qui n'a pas permis d'empêcher l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.
Encore
c'est
un mot,
ça que je trouve assez frappant dans la logique du vote utile.
Oui, deux mots. Le premier, par rapport à ce que vous évoquiez, Ali, le fait que Donald Trump se sert d'un bouc émissaire comme un virus étranger. Ce qui est très frappant, c'est que dans la plupart des pays, c'est exactement le même réflexe qui prévaut. Le virus, par définition, ne peut pas être un virus national, c'est un virus étranger. Et c'est intéressant de noter, je crois que chacun l'a fait, la phrase d'Emmanuel Macron dans son allocution « ce virus n'a pas de passeport », donc s'inscrivant en faux par rapport à cette tendance qu'on a vue dans à peu près le monde entier de rejeter à l'extérieur. Et par rapport à ce que dit Natacha, c'est vrai, à supposer que les électeurs américains, les électeurs démocrates, se sentent plus proches de Bernie Sanders que de Joe Biden.
Engels
disait la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Eh ben, ils n'ont pas mangé. Et notamment tout ce qui était le cœur de la stratégie de Bernie Sanders, qui était je crée un mouvement, je crée une mobilisation exceptionnelle. Je vais faire venir voter des gens qui ne votaient jamais, et notamment les jeunes. Eh ben, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange pas pour l'instant.
Oui, le duel continue.
France Inter. Le grand face à face. Le duel.
En principe, cette option de se représenter serait possible. mais à une condition, à savoir si la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie conclut qu'un tel amendement ne sera pas en contradiction avec les principes et les dispositions de la loi fondamentale, la Constitution.
En 2036, Vladimir Poutine aurait 84 ans, ce qui en fait un règne plus long que celui de Brejnev, plus long que celui de Staline, une démocratie de plébiscite fondée sur l'acclamation permanente d'un grand homme.
C'était mardi, les députés russes entérinaient la réforme qui permet à Vladimir Poutine d'être président jusqu'en 2036. Et à l'antenne d'Inter, le philosophe Michel Elchaninov analysait cette prise de pouvoir, ce que l'opposition a immédiatement dénoncé comme un putsch. Putsch, Natacha, c'est comme ça qu'il faut appeler les choses ?
Bah oui, 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 très clairement. Très clairement, la façon même dont ça s'est passé, cet amendement qui surgit comme ça de nulle part un soir par une députée du parti de Vladimir Poutine, une vieille députée de 83 ans, ancienne astronaute. Tout ça est une histoire politique assez étonnante. Mais le principe, c'est quoi? C'est que Vladimir Poutine s'appuie sur une partie du peuple russe qui finalement considère que il vaut mieux une espèce de dictateur à vie plutôt qu'un flottement. C'est-à-dire que on sait gré à Vladimir Poutine d'avoir maintenu la grandeur de la Russie face dans un monde où des impérialismes se remettent en marche. En plus, il n'oublie pas de contenter l'électorat très conservateur en Russie, puisqu'il fait ajouter dans la Constitution la foi en Dieu, l'interdiction du mariage homosexuel, oui, histoire d'être sûr qu'il aura une adhésion d'une majorité. Non, on est dans une démarche qui est une démarche d'éloignement progressif de la démocratie. C'est ce qu'on pouvait craindre depuis longtemps. Simplement, la question, c'est... quelle est la part du peuple russe qui est derrière ? Et les paris que prend Vladimir Poutine, en particulier sur la question du pétrole, là, nous montrent qu'il est prêt à prendre énormément de risques parce qu'il se dit qu'il est soutenu par une part majoritaire de son peuple.
Gilles Finkelstein.
Oui, qu'est-ce qui distingue fondamentalement un régime libéral d'un régime illibéral qui soit plus ou moins démocratique ? C'est la conception du pouvoir, l'idée que le pouvoir doit avoir une limitation. Et là, on a une vraie leçon de choses dans la dérive d'un régime qui est de plus en plus illibéral. Parce que non seulement il y a ce que l'on a évoqué, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus de limitation au nombre de mandats du président Poutine, en France, ça fait relativement peu de temps qu'il y a une limitation au nombre de mandats, puisque ça ne date que de 2008, c'est plus ancien ailleurs, mais c'est souvent un concentré symbolique de la limitation du pouvoir que celui du nombre de mandats du président.
Fascinant d'imaginer que Poutine, en 2036, aura dépassé Staline en longévité, et qu'à part Pierre le Grand, qui a régné 43 ans... personne n'aura fait plus long, mieux que lui.
Oui, avec exactement les mêmes argumentations que l'on a à chaque fois, c'est-à-dire l'idée que les électeurs doivent avoir le choix, que la stabilité est très importante, que un jour, eh bien, il pourra y avoir moins de concentration. Bon, c'est toujours les mêmes arguments qui sont utilisés, mais au-delà de la limitation du nombre de mandats ou de la non-limitation du nombre de mandats, il y a aussi une dérive vers un régime plus illibéral en ce que le pouvoir devient de plus en plus concentré au Kremlin, alors que la révision constitutionnelle, justement, visait à donner davantage de pouvoir au Premier ministre, et que le pouvoir judiciaire est encore plus sous les mains du président Poutine.
Natacha, pourquoi est-ce que vous parliez du pétrole en parlant de Vladimir Poutine, qui pourrait donc être président jusqu'en 2036 ?
Parce que ce qui renforce Vladimir Poutine, c'est la montée des impérialismes qui donne l'impression qu'un pouvoir fort est nécessaire. Or, ce qui vient de se passer avec la chute de 25% du prix du pétrole, c'est en fait un coup de poker absolument hallucinant de Vladimir Poutine. Ou je dirais plutôt un jeu d'échecs dans lequel le joueur prend le risque de sacrifier jusqu'à sa dame pour mettre échec et mat l'adversaire. Je m'explique. En fait, Vladimir Poutine a rompu l'alliance avec l'Arabie Saoudite et avec les pays de l'OPEP pour faire en sorte que le prix du baril baisse. Pourquoi ? Parce que si le prix du baril baisse à moins de 30 dollars le baril, cela ruine les producteurs de pétrole de schiste américains qui pour l'instant ne sont pas rentables, qui ont besoin de se refinancer à partir de 2020 et qui ne peuvent être rentables que au-delà de à peu près 40 dollars le baril. En donc faisant ça, Vladimir Poutine prend le risque de ruiner son économie. Dans tout cas, de se fragiliser énormément. Mais il sait qu'il fragilise encore plus l'adversaire et que toute la géopolitique américaine de ces dernières années se comprend parce que les États-Unis sont indépendants énergétiquement et parce qu'ils sont le premier producteur de pétrole au monde. Donc on a là un pari extrêmement risqué, mais qui en même temps montre à quel point Vladimir Poutine d'abord joue à long terme et ensuite est prêt à fragiliser ce qui fait le cœur de son rapport avec son peuple, c'est-à-dire l'économie, la survie de l'économie, pour pouvoir dire « j'ai vaincu les États-Unis ». On a là un truc très frappant, parce que ça ne peut se faire que dans ce genre de régime, c'est-à-dire c'est lié pour moi à la révision constitutionnelle, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, en fait, est en train de concentrer absolument tout pour vaincre à tout prix, ce qui nous met, nous, au pied du mur, car nous devons préserver à la fois nos libertés, nos démocraties et en même temps notre indépendance vis-à-vis de ces impérialismes.
Gilles, avant de passer au débat.
Il y avait une alliance baroque entre la Russie et l'OPEP, et donc entre la Russie et l'Arabie Saoudite, parce que c'était une alliance récente, ça date de 2017 seulement. Ça visait à limiter la production pour maintenir un niveau de prix qui soit acceptable pour tout le monde. C'était baroque parce qu'il y avait une alliance économique, alors que d'un point de vue politique, l'alliance de la Russie est avec tous les ennemis de l'Arabie Saoudite. Et donc là, c'est Vladimir Poutine qui prend l'initiative en reprenant sa liberté. Il tente, Natacha a raison, un coup de poker. Je ne sais pas s'il avait bien anticipé quelle allait être la réaction de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire puisque vous ne voulez pas limiter la production et maintenir le prix, eh ben dans ce cas-là, nous on va carrément augmenter la production pour que le prix s'effondre et que l'on ait une plus grande part de marché. On est dans un jeu dans lequel tout le monde va souffrir. La question est de savoir qui va souffrir le plus, et c'est pas du tout sûr que ce soit les Russes qui souffrent le moins, et c'est pas du tout sûr non plus que cette situation soit une situation durable.
Mais c'est pas une bonne solution pour nous. Pour les Français, par exemple, quand on voit l'effondrement de l'économie liée au coronavirus, ça peut améliorer le pouvoir d'achat, servir d'amortisseur, comme on dit rapidement.
En apparence, vous avez raison, c'est bon pour les individus, notamment pour ceux qui ont une voiture, puisque ça peut faire baisser le prix de l'essence. Ça peut être bon collectivement, ou ça peut booster la croissance à un moment où, on le voit, elle est plus que chahutée. Mais en réalité, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle, parce que c'est un mauvais signal. On a besoin de consommer moins de pétrole, et donc que le pétrole soit plus cher, pour que dans les arbitrages, on voit quand chacun doit acheter par exemple une automobile, et ben dans l'arbitrage entre une voiture électrique et une voiture à essence, le prix de l'essence est un élément très important, et on a besoin de pouvoir investir pour l'après-pétrole, et là l'écroulement de toutes les grandes sociétés pétrolières est une mauvaise nouvelle.
Midi 23, le grand face-à-face continue en direct avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury.
France Inter. Le grand face-à-face, le débat.
Covid-19, le virus se propage partout sur la planète, des gouvernements qui décrètent des mesures exceptionnelles, pandémie et vie confinée. Au-delà des enjeux de santé publique, reste-t-il de la solidarité quand l'enfer, c'est les autres? Quand il ne faut surtout pas tendre la main aux malades, mais au contraire les éviter et se laver les mains plusieurs fois par jour. Et la peur, la psychose, la panique sont-elles des comportements vraiment irrationnels? On va en parler avec notre invitée, elle est philosophe et psychanalyste, professeure titulaire de la chaire Humanité et santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, auteur notamment d'un livre qui fait référence, Le soin est un humanisme, collection Tract chez Gallimard. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Beaucoup de questions à vous poser sur la peur du virus, le virus de la peur. Commençons d'abord par ce que vous constatez dans vos consultations, que vous disent vos patients. Est-ce qu'au lieu de parler d'eux, ils parlent davantage du coronavirus?
Oui, alors ça c'est clair qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord effectivement le coronavirus qui s'invite dans le discours analytique. Il fait l'objet, c'est bien normal, de la séance, en tout cas, voilà. Après, vous avez tous les effets paniques, les décompensations, donc des patients qui ont carrément un symptôme directement lié à une peur du corona, d'autres qui rentrent plutôt dans une angoisse un peu mortifère parce que il y a une vie, on en parlait à l'instant, une vie économique totalement bouleversée, et donc beaucoup déjà anticipent, non pas, si vous voulez, le passage sanitaire compliqué, mais le passage de la récession économique qui va être jouée derrière, et donc s'enclenche un sentiment de vulnérabilité. Oui. Et ensuite, moi j'ai beaucoup de supervision de soignants, Et alors là, en revanche, c'est autre chose, parce qu'il n'y a pas de panique chez les soignants, mais il y a une vérité de l'alerte, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, pour certains, en saturation, que ce soit en réa, d'autres, des médecins de ville qui ont le sentiment d'être totalement démunis, parce que pas de masque, pas de ceci, de cela. Et donc là, j'entends une plainte des soignants en disant, voilà, on ne prend pas la mesure de cette crise. Et sans parler des collègues qui sont en CMP, j'en avais quelques-uns tout à l'heure, donc en centre médico-psychologique d'arrondissement, où là, il paraît que ça arrive aussi un peu en flot. Donc oui, c'est quand même, oui, c'est présent.
Est-ce qu'on peut avoir raison d'avoir peur, Cynthia Fleury?
Bien évidemment. La peur,
bien évidemment.
Ah ben bien sûr, la peur est un sentiment rationnel. Hein, donc je le rappelle.
La peur est un sentiment rationnel.
Bien évidemment. La peur, c'est un premier.
Expliquez-nous ça.
Bah si, la peur, c'est.
C'est l'idée que même le paranoïaque a parfois raison de l'être.
La peur et la parano, c'est très très différent. Alors donc, la peur, c'est bien évidemment un sentiment essentiel de protection et d'autoconservation de soi-même. Donc la peur, elle est rationnelle, elle est importante. Le délire de la peur, c'est encore autre chose. Et la paranoïa n'est pas un délire de la peur. Hein. La parano, c'est un grand délire de la mégalomanie. C'est-à-dire, en gros, la paranoïa considère qu'il y a une intentionnalité de la menace et que la menace est dirigée contre soi. Donc, en fait, derrière le trouble mental de la parano, il y a, en fait, un grand, grand trouble narcissique. Donc, la paranoïa, ici, il faut la laisser de côté. En revanche, la peur, bien évidemment...
Il faut parler de peur, de panique, de psychose.
Alors, la psychose, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, oui, d'avoir un moment de panique face à l'inédit du moment, c'est totalement normal. En revanche, le maintien dans la panique, c'est-à-dire ce qui là revêt des caractères plus psychotiques, là en revanche c'est dangereux bien évidemment pour le sujet et pour les autres.
Natacha ?
Nous ne sommes pas, en fait, confrontés à une contradiction entre cette peur dont vous dites qu'elle est un sentiment rationnel et la nécessité de sortir de la peur qui nécessite aussi une forme de rationalité. Je suis très frappée par le fait que, alors qu'on a une population qui a passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école républicaine pour apprendre justement ce qui permet normalement de réagir face à l'ensemble des données sociales, eh bien là, on a beaucoup de gens qui semblent ne pas avoir les bases de connaissances scientifiques qui permettraient justement de relativiser cette peur et d'adopter des comportements qui soient des comportements d'équilibre, c'est-à-dire ni l'absence de peur qui serait irrationnelle, ni la peur panique qui devient irrationnelle. Donc est-ce qu'on arrive à trouver le juste équilibre? J'ai l'impression que non, quand je vois des supermarchés qui se vident, quand je vois des gens qui ont l'impression que simplement le virus va se promener sur 50 mètres pour venir jusqu'à eux et que donc il faut vraiment se couper du reste du monde. Sommes-nous préparés à l'échelle d'une société ?
Cynthia Fleury.
Alors, si vous voulez, par rapport à la question d'un inédit, c'est un inédit. Hein, pour la majorité des gens, la confrontation avec une situation pandémique n'est pas connue. Donc cet inédit provoque des dysfonctionnements. Moi, je ne perçois pas le même dysfonctionnement au sens de panique généralisée. C'est pas parce que vous avez des réflexes, si vous voulez, d'aller acheter quelques kilos de pâtes que nous sommes dans la panique.
Et des rouleaux de papier toilette aussi.
Et des rouleaux de papier toilette que nous sommes dans la panique. On va, de fait, se coordonner pour que chacun ait ses pâtes et ses rouleaux de papier toilette. Donc, si vous voulez, là... ce que moi je perçois à la fois en tant que psychanalyste et puis sur le territoire, c'est que les gens, en fait, se sont dessaisis pendant longtemps de la nécessité d'un comportement collectif. Nous ne sommes plus habitués à cela. Et nous ne sommes plus habitués à ça parce que nous vivons dans des mondes individualistes et qui revendiquent, en plus philosophiquement parlant, l'individualisme méthodologique.
Mais c'est même ce que nous disent les pouvoirs publics.
Mais bien sûr, et c'est très important.
On nous dit isolez-vous.
Alors, deux choses. On nous dit pas isolez-vous. Hein. C'est pas aussi simple que ça. On nous dit d'abord... coordinez-vous, ce qui n'est pas la même chose. Donc, il ne s'agit pas d'abandonner les uns et les autres, puisqu'on dit précisément qu'il faut être solidaire. C'est ça le message. Solidaire, en revanche, c'est de penser une coordination des actes. Et si dans cette coordination des actes, il y a des phénomènes de restriction, de déplacement, etc., de façon temporaire, à ce moment-là, oui. Donc c'est tout sauf de l'isolement. Et autre chose, je veux le dire parce que on a un point très très problématique avec nos aînés dans les EHPAD.
Sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé.
On a beaucoup travaillé avec le comité consultatif national d'éthique et notamment avec Régis Aubry parce qu'on avait fait un avis, qu'on était co-rapporteurs tous les deux de cet avis. S'il vous plaît, pas de zèle de la part des directeurs d'EHPAD par rapport à cette folie juridique de dire « Ah ben maintenant c'est fini, plus de visite, plus rien !» alors qu'on sait très bien que les patients âgés sont très très vulnérables sur précisément l'isolement social. Donc quand on produit une décision qui est sanitaire pour protéger les patients, on doit produire des alternatives. C'est-à-dire en l'occurrence là, se dire bon très bien, comment on continue de maintenir le lien, le digital, le téléphone, l'aide, les photos, que sais-je, éventuellement comment on protège certains pour qu'ils rentrent malgré tout. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire sincèrement, l'éthique, c'est le non-zèle par rapport à la règle. C'est la compréhension de la règle et le discernement.
Gilles Finkelstein. Alors,
justement, si on essaye d'analyser ce qu'est le discours public depuis ces derniers jours, c'est à la fois, je crois, un discours de rationalité, l'idée qu'il faut d'abord s'appuyer sur le savoir de la science, de la médecine, l'idée de ne pas affoler. Une des raisons pour lesquelles les élections municipales n'ont pas été annulées, ou pour l'instant, en tout cas, les transports publics n'ont pas été arrêtés, ne pas désigner de bouc émissaire, on l'a dit tout à l'heure, donc un discours de rationalité, un discours de responsabilité, la solidarité étant peut-être de manière paradoxale, mais limitation des interactions.
Et j'aimerais qu'on approfondisse ce paradoxe d'ailleurs.
On y reviendra, et c'est le point sur lequel je voudrais vous interroger, Cynthia Fleury, un discours de vérité. C'est de vérité sur l'état de la situation, le fait qu'on est seulement au début de l'épidémie, pour reprendre les mots du président de la République, et sur l'objectif qu'il ne s'agit pas d'arrêter la maladie, mais l'épidémie, mais simplement de la ralentir. Dans votre livre qu'évoquait Ali, le soin est un humanisme, vous dites que la médecine doit articuler la vérité à une notion capacitaire, ce qui veut dire la vérité qu'elle délivre ne doit pas être contre-productive à l'égard de l'impératif premier du soin et du suivi du traitement. Est-ce qu'on peut dire la même chose d'un point de vue collectif, jusqu'où on doit aller dans la vérité ?
Oui, Cynthia Fleury. Je pense que c'est un point essentiel et qui différencie, pour ma part, la philosophe que je suis, de la psychanalyse. Je peux faire vraiment la différence là-dessus, c'est que dans la philosophie, vous allez délivrer une vérité. Alors je dis, je caricature, mais tout de même, vous pouvez délivrer une vérité sans vous soucier à l'instant T de l'impact de cette vérité. Le soignant fait pas la même chose. Le soignant, effectivement, ne peut pas basculer du côté du mensonge, ne peut pas basculer du côté de la restriction d'information, et en même temps, il doit produire une vérité capacitaire, c'est-à-dire une vérité qui fait que le patient va aller vers l'auto-soin et va consentir aux soins. Et ça, c'est un travail très particulier.
Avant de donner la parole à Natacha, que pensez-vous du fait de donner le nombre de cas chaque jour en fin de journée? 3661 cas en France depuis le 24 janvier, 79 décès. Il y a donc cette évolution du nombre de nouveaux cas en France qui revient jour après jour. Et certains, comme le professeur Eric comme de la Salpêtrière, trouve que c'est un décompte macabre et qui ne fait qu'alimenter la panique. Il ne serait en fait que contre-productif.
Alors, je ne partage pas son avis. Je pense, si vous voulez, que dans l'état de droit, la publication et donc la transparence de l'information publique est non seulement un droit, mais aussi une valeur. Ce qui est différent, c'est-à-dire un droit, parce que c'est comme ça, et une valeur au sens où nous produisons notre consentement et notre confiance envers l'institution, précisément parce que nous avons le sentiment d'être informés correctement.
Natacha Polony.
Alors justement, cette question de la confiance, elle est absolument majeure. Je suis frappée par le fait que nous sommes dans une société qui a tendance à s'appuyer, à développer les pulsions. C'est-à-dire le système de consommation fonctionne sur la pulsion, à travers la publicité. Le système économique fonctionne sur la pulsion. L'effondrement des bourses nous le montre. La peur d'une éventuelle récession crée de la récession. Et face à cela, en effet, il faut maintenir un discours de vérité, de rationalité, pour justement limiter cette panique. Mais ça nécessite qu'il y ait de la confiance. Or, on voit qu'on est dans une période depuis quelques années déjà de perte de confiance, pour des raisons d'ailleurs tout à fait explicables. Face au discours sur les bienfaits de la technique, on a des gens qui sont dans un rejet, dans une peur, on le voit avec les vaccins, parce qu'ils ont l'impression que tout cela, en fait, est fait pour d'autres intérêts que pour le bien commun. Comment maintenir l'idée que tout l'ensemble de notre société et les pouvoirs publics en particulier vont dans le sens du bien commun? Comment rétablir cette confiance?
Cynthia Fleury.
Oui, alors vous avez raison, c'est un point essentiel. Et d'ailleurs, vous avez vu dans le discours du président comment il est allé magnifiquement chercher à la rescousse les fameux biens non marchands constitutifs de l'état de droit, à savoir l'éducation, la santé, la recherche. Et donc, il fait valoir quoi? Il fait valoir que lorsqu'on a une confiance, encore une fois, dans l'état de droit, on n'a pas simplement confiance dans les institutions procédurales de l'état de droit.
Mais en fait, on vit dans une période de défiance, Cynthia Fleury.
C'est que la base, si vous voulez, de la confiance dans l'état de droit, c'est pas simplement dans ce grand automatisme de l'institution, mais c'est dans l'état social. Et l'état social, il est encore présent, malgré tout, et il montre sa robustesse et sa délicatesse. Et ça, difficile, parce qu'on sort quand même d'une crise des urgences monumentale. Hein.
Oui.
Elle est également inédite, et vous comprenez bien que c'est pas le coronavirus qui va faciliter la situation. Donc la confiance, elle est mise à mal, on est tout à fait d'accord. Mais malgré tout, vous avez une pérennité des institutions qui fait valoir. Voilà, ça, c'est aussi la continuité de l'histoire démocratique. Hein. Il y a quand même, heureusement, une prime à cette légitimité-là. Mais c'est quelque chose de très fragile. Donc,
De
très fragile, parce que si vous voulez... sincèrement, aujourd'hui, la létalité serait plus grande et les premiers vulnérables ne seraient pas, entre guillemets, les formes sévères et les 85 ans ou les 70 ans des formes sévères, mais les enfants, qu'on verrait imploser littéralement notre société. Donc on voit très bien que nous sommes malgré tout dans ce coronavirus protégés encore sur la question de la cible, hélas, pandémique.
Natacha Pugil.
Oui, juste un mot. J'insistais au début sur la question du rôle de la pulsion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Cynthia Fleury, mais il me semble tout de même que plus que jamais, nous sommes dans une organisation économique et sociale qui rend difficile la rationalité, le lien social, la solidarité, parce que la pulsion, c'est un phénomène profondément individualiste.
Alors, c'est pas spécifiquement un phénomène individualiste, mais c'est en tout cas un archaïsme essentiel de l'individu, ça vous avez totalement raison. Et oui, vous avez raison que nous avons un système, notamment capitalistique et d'hyperconsommation, qui aujourd'hui est basé sur un phénomène addictif, parce que la pulsion, c'est mécanique, parce que c'est obsolescent, c'est-à-dire ça monte, ça descend, et puis ça c'est très extraordinairement vorace. Et oui, nous avons un système qui est basé là-dessus. Et même aujourd'hui, nous avons un langage de plus en plus pulsionnel, puisque vous pouvez faire l'expérience d'un déversement pulsionnel et notamment ressentimiste, très souvent dans les réseaux sociaux.
Gilles.
Je m'interroge quand même sur le point de savoir si cette idée que la réaction massive des Français à cette crise est la pulsion. Qu'il y ait moins de confiance, ça fait des semaines et de semaines qu'on l'évoque, que l'on soit dans ce que Philippe Guibert a appelé dans un petit essai qu'il a publié il y a quelques semaines qui s'appelle « La tyrannie de la visibilité ». Il dit que nous vivons dans l'imaginaire du dérèglement, que tout
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire que un certain nombre de choses que l'on pensait instituées, que l'on pensait durables, de comportements, viennent à ne pas se passer comme on le croyait. Donc ça, c'est certain. Peut-être que dans les situations de crise comme celles que nous vivons, au contraire, on est davantage dans un moment de confiance, de responsabilité et de solidarité. On peut en faire l'hypothèse. Moi, j'attends de voir.
Qui vont au supermarché acheter des dizaines de rouleaux de papier toilette ou qui vont dévaliser les rayons de gel hydroalcoolique.
Oui, mais je pense que ça ne suffit pas à dire qu'on est dans un état de délire et de pulsion. Souvenez-vous, il y a 2 mois, quand la Chine, on en avait parlé ici même, quand la Chine, pour la première fois, avait confiné 40 puis 60 60 millions de Français, de Chinois. On se demandait si des démocraties pouvaient avoir la capacité de prendre des mesures de ce type. Deux mois après, c'est presque la question inverse. Est-ce qu'on a la capacité à résister à la demande de l'opinion de prendre des mesures très dures? Donc, la question aujourd'hui, pour moi, c'est moins la question de la pulsion ou du délire que d'aller jusqu'au bout de la responsabilité. On sait qu'un certain nombre de comportements des Français ne sont pas encore, n'ont pas encore épousé, mais je pense que les choses peuvent bouger très vite, les comportements qu'il faut avoir pour limiter la pandémie.
Cynthia Fleury.
Oui, moi, quand Natacha Polony avait effectivement considéré qu'il y avait un déferlement pulsionnel, je partage pas cet avis. Hein, donc, je suis assez d'accord avec Gilles. Donc, c'est pas, si vous voulez, ce qui est certain, voilà. Mon Dieu, c'est parti.
Non. Non, ça va revenir. C'est parti, ça va revenir. C'est comme le coronavirus. Non, mais en l'occurrence, c'est une question intéressante puisque Natacha l'a soulevée, puisqu'on est aussi dans une période extrêmement individualiste, Cynthia Fleury.
Non, mais ce qui est certain, si vous voulez, c'est que vous voyez tout de même la dramatisation. C'est pas une dramatisation, mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui n'était pas réel et qui aujourd'hui existe et qui fait que, ne serait-ce que sur l'application des gestes barrières, c'est plus présent, alors que pendant longtemps ça a été considéré comme étant anodin. Et donc petit à petit, vous avez une saisie, encore une fois, d'une responsabilité collective. C'est nouveau. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas régulièrement des situations à ce point-là inédites où, tout d'un coup, face à une logique individualiste, on doit un peu s'effacer et pas qu'un peu, même peut-être demain beaucoup plus, et on doit produire un comportement collectif. Et c'est ça que nous sommes en train de réapprendre.
De réapprendre. Alors, Gilles Damo, puis Natacha.
En relisant votre livre à l'aune de la crise que nous vivons, donc en le relisant hier soir, vous ne faites aucune apologie de la douleur, mais vous dites à plusieurs moments que, je cite par exemple page 22, « la vulnérabilité fragilise le sujet, mais peut être aussi l'occasion d'une sublimation possible ». Est-ce que, d'un point de vue collectif, ça peut être la même chose que la crise que nous traversons? Est-ce que, je reste sur ma veine optimiste...
Oui, vous êtes très optimiste aujourd'hui, alors que vous toussez, d'ailleurs, depuis le début de l'émission.
Oui, ça vous inquiète, je le vois.
Pas du tout,
donc,
non.
Est-ce que quelque chose de positif peut sortir de cette crise, justement, dans les relations que nous avons les uns avec les autres?
Il est évident, si vous voulez, que tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu, c'est à la fois de vérifier la robustesse, encore une fois, de notre état de droit, de nos institutions, de nos infrastructures, de nos comportements collectifs, et puis dans un deuxième temps, de faire évoluer. Et donc,
De faire évoluer.
Alors, demain peut-être la régulation de la mondialisation. C'était le dernier passage du discours du président, hein, qui était quand même dédié à ça, en disant, voilà, nous voyons bien qu'il y a un caractère proprement invivable de cette globalisation telle qu'elle est pensée aujourd'hui. J'utilise ce terme pour bien, c'est invivable, c'est-à-dire ça nous rend malade, et en plus par des expériences pandémiques possibles. Donc on est allé à un tel niveau d'interconnexion, mais d'interconnexion qui en fait n'est pas de l'interconnexion réciproque. C'est des phénomènes de dépendance totale par rapport à certains endroits qui nous fragilisent dans nos souverainetés concernant la santé, etc., etc. Donc, si demain ça nous aide, si cet événement nous aide à être un levier pour tenter d'augmenter de manière, de faire évoluer positivement la gouvernance mondiale, en lien avec les États-nations, c'est bien évidemment ce qu'il faut faire. Si en plus ça permet au président Macron de redécouvrir la valeur de l'État social, c'est encore mieux. Donc ça, c'est bien évidemment l'enjeu. Parce que la question de Gilles, c'était est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que les leçons et les retours d'expérience sont à la fois souvent présents de façon sémantique. Donc on va les avoir. Est-ce qu'ils sont présents dans les actes ensuite? Est-ce qu'ils sont incorporés? C'est une autre question.
Natacha.
Alors oui, je pense en effet que la fin du discours d'Emmanuel Macron était très intéressante parce que on y trouvait cette idée de rupture, c'est-à-dire que en gros, on est dans une période où on voit de tous les côtés à quel point le système que nous avons mis en place est un système qui ne fonctionne pas, qui est même dangereux, et il faut l'événement particulier, l'événement massif, pour que les gouvernants ne puissent plus faire autrement que voir ces limites du système. Sauf qu'ils étaient déjà pensés depuis quelque temps. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu depuis quelques années une montée des thématiques de la collapsologie, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un effondrement possible, avec d'ailleurs des théories assez intéressantes, puisqu'il y a deux types de collapsologie ou de survivalisme. Il y a ceux qui estiment justement qu'il va falloir se battre pour survivre et que les comportements individualistes vont se remettre en place. Et ça fait penser à tous les films catastrophes ou à la littérature. Oui, puis à la littérature, Malville de Robert Merle, tous les moments où on anticipe les comportements humains. Et puis à côté de ça, il y a ceux qui disent, mais c'est l'occasion, l'effondrement, de créer de la solidarité. Alors ma question, c'est face à cela, nous savons qu'il va falloir reconstruire. Bien sûr qu'il y a la question de savoir si ça va se passer, reconstruire correctement sur des bases qui soient des bases de souveraineté, des bases d'émancipation des individus et des sociétés. La question, c'est comment on crée les conditions pour que ça se passe. C'est-à-dire, c'est pas seulement est-ce que ça va se passer, c'est est-ce que on prépare à la fois les politiques et les populations, comment on les prépare à penser un système qui soit meilleur.
Cynthia Fleury.
Oui, alors là, je vais faire une première réponse, c'est que tout le problème, c'est pas tellement comment on fait ? Parce qu'on le fait déjà. Je veux dire par là que vous avez des territoires, ce qu'on peut appeler des insularités territoriales, qui déjà, de façon assez locale, tentent par ce qu'on appelle les commons, ce qu'on appelle les communs, la gouvernance des communs, une manière de penser, tout simplement, une économie sociale, solidaire, en interaction avec l'endogène, avec des territorialisations. Tout ça existe aujourd'hui. La question, c'est que ça existe de façon ponctuelle, fragmentaire, et que le passage à l'échelle est compliqué. Et que ça, en revanche, aujourd'hui, le kit de déploiement de cela, on ne l'a pas totalement. Pourquoi ? Parce qu'on a su massifier, mais la massification est contraire, en fait, à ce que l'on veut faire à terme. Donc c'est un mélange à la fois, si vous voulez, de grands invariants nouveaux qu'on est en train de mettre en place, et en même temps de vérité des vulnérabilités locales à prendre en considération. Donc c'est plus long comme montée, ça nous oblige, si vous voulez, à penser des méthodologies nouvelles en termes de politique publique, et c'est tout ça qu'on va
inventer. C'est dans le meilleur des cas, puisque Natacha évoquait aussi les survivalistes, ceux qui veulent survivre à la fin du monde, vivre après la fin du monde. On est fasciné aussi par ce qui est en train de se passer, par la possibilité d'un effondrement généralisé de nos civilisations.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ceux qui sont déjà dans un mode de survivaliste et d'économie de rationnement et de repli totalement fantasmatique, etc. Vous avez aussi ceux qui, comme le président Trump, expliquent au monde entier que la vie d'un Américain et le mode de vie américaine n'est pas négociable. Donc, oui. Si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui est tout aussi délirant comme discours qu'un système qui, tout d'un coup, validerait le fait que oui, nous allons rentrer en économie de rationnement et de survie.
Question éthique, Cynthia Fleury, on l'a vu parce qu'il y a eu un afflux massif. Tout c'est dans votre coude, Gilles. C'est ce qu'a dit le président de la République. Respecter, comment on appelle ça,
les gestes barrières,
voilà. Mais en l'occurrence, la question s'est posée en Italie face à l'afflux massif de patients, de malades dans les hôpitaux. Certains médecins ont dit qu'ils devaient choisir entre les patients qui pouvaient être soignés et qu'il fallait privilégier les plus jeunes. La question du triage, c'est une vieille question, elle est connue en médecine, mais là, on est face à une question qui est cruciale. On n'est pas en période de guerre, on n'est pas sur le front. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions et comment est-ce qu'on peut même faire ces choix-là lorsqu'on y est confronté ?
C'est une des questions les plus compliquées, la priorisation, parce qu'effectivement, on prend en compte des critères, l'espérance de vie, la gravité d'une situation, l'urgence d'une situation, ce qu'on
Donc
appelle aussi...
Donc toutes les vies ne se valent pas.
pas du tout. Toutes les vies se valent, mais dans un moment d'urgence et de rareté de la ressource, puisque c'est ce qui se passe, effectivement, on pondère différents critères, ce qu'on appelle aussi l'efficacité prospective, c'est-à-dire la chance de survie derrière, et donc la question de l'âge. Et tout le problème, c'est de refuser d'en avoir qu'un seul critère, de pondérer au maximum ces critères pour produire une décision qui sera acceptable, bien
évidemment.
Mais
vous comprenez que c'est choquant, justement. C'est très compliqué de rendre acceptable cette décision.
C'est totalement compliqué, et c'est ainsi. On essaye de produire ce tri de la façon la plus éthique possible, et tout l'enjeu aujourd'hui est de ne pas arriver à cela. Et c'est pour ça, si vous voulez, que tous les gestes barrières et tout le comportement collectif est une manière d'anticiper et de ne pas provoquer cette situation absolument intenable, terrible pour les soignants et bien évidemment pour les patients.
Vous avez entendu, Gilles ? Les gestes barrières, je le dis avec le sourire.
Non seulement j'ai entendu, mais j'allais dire exactement ce que vient de dire Cynthia Fleury. Là aussi, gardons raison. C'est une vieille question éthique, c'est une question qui se pose concrètement, notamment sur les théâtres de guerre. Tout le cœur de la stratégie des pouvoirs publics en France...
Mais nous ne sommes pas en temps de guerre.
En France, comme ailleurs, c'est précisément de ne pas se trouver dans cette situation. Et aujourd'hui, nous ne trouvons pas dans cette situation. Donc,
mais elle risque de se poser. Elle s'est passée en Italie.
Elle peut se poser, pour l'instant, elle ne se pose pas. Donc là aussi, n'affolons pas à l'excès.
Mais vous voyez, voilà terriblement un dilemme qui peut expliquer demain une solution plus drastique en termes de restriction de liberté, par exemple, de faire accepter à la population un moment temporaire de confinement pour précisément ne pas être dans cette situation-là. En tout cas, c'est quelque chose qui est... Voilà, que nous avons en partage aujourd'hui pour savoir si, comme l'a dit le président Macron, est-ce que ce que nous visons, c'est le fait que c'est toute la population que nous avons envie de guérir.
Alors, juste une chose. Justement, on parle de toute la population. Quelle population ? C'est-à-dire la question qui se pose là, c'est aussi la question de la communauté. Quel est le pourtour de cette communauté ? Parce que solidarité n'existe que quand des gens ont l'impression de partager un destin commun. Or, ce qui est frappant depuis quelques jours, c'est qu'on voit le délitement de l'idée européenne, dans le sens où on a eu, par exemple, des dirigeants qui ont répondu aux Italiens « Nous ne donnerons pas de respirateurs parce que notre population ne le comprendrait pas ». C'est-à-dire que cette solidarité nécessaire, elle existe à l'échelle des nations. Hélas, au pied du mur, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile à l'échelle européenne.
Cynthia Fleury.
Oui, non, c'est vrai que le moment européen, là, a été un peu terrible.
Natacha disait même que l'Union européenne était morte dans l'une de ses vidéos, avec cette crise du coronavirus.
Alors, oui, je n'espère pas, mais c'est vrai que...
Moi non plus, mais c'est un constat.
Mais c'est vrai que c'est très violent, parce qu'il y a une opportunité là, précisément pour une ressaisie pour chacun d'entre nous de l'identité européenne, et de voir que nous ne sommes pas capables d'avoir une coordination forte sur cette question est dommageable.
On a beaucoup parlé de la peste de Camus pour expliquer les situations que nous rencontrons aujourd'hui face au coronavirus, et si on ne devait pas plutôt lire Sartre, Huis clos, c'est assez fascinant parce que l'enfer, c'est les autres. Et c'est ce que risquent de vivre beaucoup de familles. Beaucoup de familles où on va se retrouver 24 heures sur 24 avec les enfants, éventuellement avec le mari. Et pour certains, c'est un cauchemar, Cynthia Fleury. Ça vous fait rire?
Oui, ça
mais
fait
comment
rire
est-ce qu'on répond à ce genre de situation?
On répond avec humour et relativité, en considérant déjà que partager la vie de ceux qu'on est censé aimer est tout de même en dernière instance un bonheur. Et je vois
ça,
proliférer. Voilà. Non, on rêve pas, on est relatif, justement, l'inverse du rêve. Et donc, je vois proliférer sur les réseaux sociaux quantité de vidéos humoristiques en disant ça va être sympathique, avec les enfants qui tapent, qui hurlent, etc. Non, c'est une redécouverte. Couverte de fait pour chacun d'entre nous, au quotidien, d'une manière de restreindre un peu notre plaisir et de se mettre dans, encore une fois, des comportements plus collectifs.
Natacha, vous partagez le point de vue de Cynthia Fleury où l'enfer c'est les autres et c'est une catastrophe de se retrouver enfermé avec ses enfants et son mari?
Non, comme je suis au fond une véritable progressiste, d'abord je crois en l'homme et je crois en un progrès possible de l'homme par l'éducation. Le plus dur va être de maintenir l'éducation dans les conditions actuelles. Et je pense en effet que là, il y a une angoisse parce que nous sommes confrontés à quelque chose de totalement nouveau et de totalement ingérable, disons-le. Donc, il va y avoir aussi un travail sur soi. Et là, je pense que Cynthia Fleury, en tant que psychanalyste,
va avoir du boulot
et va pouvoir nous aider. Moi, je suis confrontée à la question du lâcher prise. Comment on fait pour accepter qu'on ne maîtrise pas et qu'il y a des choses qui ne pourront pas se faire et c'est peut-être pas si grave.
Oui, non, c'est même une bonne chose. C'est même une bonne chose, si vous voulez, de lâcher ce délire d'une performance imposée aujourd'hui pour précisément comprendre que le progrès et la pseudo-performance imposée, ça n'a strictement rien à voir. Donc ça, c'est important. Je rappelle juste que, voilà, il y a, en revanche, ce qui est aussi au cœur des familles, c'est le maintien de la vie économique. Et ça, c'est quelque chose de profondément qui produit beaucoup d'angoisse, à juste titre. Vous avez toute une petite classe moyenne qui a vécu les gilets jaunes, qui a vécu les grèves et qui vit maintenant le coronavirus en plein fouet. Et vous avez donc une situation de récession économique qui véritablement fragilise. Donc l'enjeu là, on l'a encore entendu avec le fameux « quoi qu'il en coûte », donc j'espère encore une fois que le tournant sémantique du président Macron sera un tournant politique.
Gilles.
Oui, moi aussi. Comme dans toute situation de crise majeure, on se demande toujours...
C'est la première fois depuis son élection qu'Emmanuel Macron suscite l'unanimité. En tout cas, c'est assez frappant autour de cette table particulièrement.
C'est pas l'unanimité, c'est que nous attendons que, pour une fois, il ne se paye pas de mots.
Oui, comme dans toute situation de crise majeure, on se demande s'il y a un avant et un après, et on fantasme beaucoup sur l'ampleur de la rupture. Alors, on l'a évoqué sur beaucoup de sujets, mais y compris sur les sujets collectifs dans le rapport à la mondialisation, notamment que l'on évoquait. La mondialisation, à la fois, nous fragilise. Ce sont pas seulement les liens, mais y compris les dépendances que Cynthia Fleury évoquait. On l'a vécu il y a quelques années d'un point de vue financier. On le voit cette fois-ci sur les questions de santé, on peut le voir demain sur les questions numériques ou sur quelques autres. Quand on dit, quand Natacha disait tout à l'heure, les conditions pour que ça se passe, la question est, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça voudrait dire que la mondialisation soit mieux régulée ? Est-ce qu'il faut, moi je ne crois pas qu'on reviendra à la situation antérieure d'avant la mondialisation. Et donc la question est de savoir qu'est-ce que, au niveau national ou au niveau européen, on doit se réapproprier la maîtrise.
Il nous reste très peu de temps. Cynthia Fleury, puis Natacha Polony. Ouais,
deux réponses. Une première littéraire, puisqu'on parlait de la peste. La fin de la peste est assez terrible par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a Rieux, le docteur Rieux, qui dit... je vais mal citer, parce que c'est loin. Mais la peste, elle est partie comme elle est arrivée. Quoi. C'est-à-dire, en gros, déjà, l'événement en tant que tel, dans son inédit... ne transforme. Et puis après, en plus, il n'y a pas eu, bien évidemment, de renouveau, de façon de faire différemment, de seuil pour l'humanité. Et c'est très particulier en termes de désenchantement.
C'est sombre.
C'est sombre et en même temps, une espèce de
cycle... On ne gagne pas contre la maladie, mais il faut se battre malgré tout.
Exactement. Bon, donc ça, c'est un premier point. Qu'est-ce qui va se passer après ? En revanche, qu'est-ce qui peut se passer après ? Si, tout de même. Enfin, une coordination européenne. Enfin, peut-être une Europe de la santé. À l'international, des façons de réguler cette mondialisation sur les échanges économiques, la préservation de ce qu'on a appelé effectivement les biens non marchands, etc., etc. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire.
Il nous reste une petite minute, Natacha.
Eh bien, je souscris à tout ce que vient de dire Cynthia Fleury. J'ajouterai une chose. Se souvenir que après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance, c'était aussi pour prendre en compte les solidarités. Et quand on détricote les solidarités, quand on pense que l'auto-entrepreneuriat, c'est génial, c'est bien mieux que le salariat, eh bien, quand la crise majeure arrive, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont fragilisés. Donc, la solidarité sociale, ça sert à quelque chose.
C'est presque une fable de La Fontaine. Cynthia Fleury, pour le coup, vous allez donc dire à vos patients qu'il faut être plutôt donc confiant.
En tout cas, moi, mon travail, c'est de faire en sorte effectivement que les patients aillent mieux. Et donc, au minimum, de leur donner confiance dans leur capacité résiliente et puis, par ailleurs, de travailler eux-mêmes à la résilience du système.
Merci, Cynthia Fleury, d'avoir été l'invitée du Grand Face à Face. C'était passionnant. Le soin est un humanisme et publié chez Gallimard, Natacha et Gilles. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Purari qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier et à la technique Henri Bérec. À suivre sur Inter, le journal.